Une heure en France. Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Une heure en France. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier. C'est la semaine de l'écriture et la semaine du goût.
Et on va découvrir pourquoi il est important de maintenir une écriture manuelle pour les enfants notamment. Pour le goût, c'est en gare que ça se passe avec l'opération Chef de gare dans 37 villes de France. Et nous aurons une curiosité aussi, la déambulation d'un âne en région parisienne. Mais avant cela, nous allons vérifier comment nous entretenons nos appartements et nos maisons.
Pour nettoyer, entretenir des plantes, lutter contre les insectes ou les poux de votre chat, les trois quarts des Français utilisent des pesticides, parfois sans le savoir. Le porte-parole de Génération Future sera avec nous après une étude de l'ANSES, l'agence sanitaire.
Et on commence avec les infos du jour et avec Simon de Faucompré.
Bonjour Simon.
Bonjour à tous.
Voilà, il faut trouver en urgence des solutions pour l'accueil des migrants.
C'est l'appel des maires de 13 villes ce matin dans un communiqué. Il y a Paris, Lille, Rennes, Nantes ou encore Strasbourg. Les camps de fortune, l'insalubrité dans les rues, les risques pris par ces réfugiés et l'hiver qui arrive. Selon ces élus, l'État n'agit pas assez et laisse les collectivités seules face à ces difficultés.
Oui, c'est justement pour trouver des solutions que le gouvernement organise cet après-midi un grand débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale.
Ouais, le coup d'envoi est à 16h pour un sujet qui déchaîne les passions. C'est un atout pour les uns, c'est une faiblesse pour les autres et il y a beaucoup de questions sans réponse pour tout le monde. Marine Le Génie, par exemple, combien coûte l'immigration en France ?
Eh bien c'est flou, il n'y a aucun chiffre précis, mais trois quarts des Français pensent que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte. C'est une idée reçue puisqu'on sait que les pays qui accueillent le plus d'immigrés, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, sont aussi ceux qui ont le moins de chômage. En Allemagne par exemple, le taux de chômage a baissé en 2015 après l'arrivée massive d'immigrés. Pourquoi ? Eh bien parce que les étrangers prennent des postes non pourvus, les emplois les moins payés et les plus difficiles. Et puis quand ils travaillent, un immigré fait tourner la machine économique, il se loge, il consomme et favoriserait donc une hausse du PIB. Mais avant de voir ces avantages, il faut attendre 5 ans en moyenne, le temps de l'intégration. À court terme, donc oui, le coût est bien réel pour le pays d'accueil, mais à long terme, la balance se rééquilibre.
Éclairage de Marine Le Génie pour France Bleu à 3h de l'ouverture des débats. Des débats, mais pas de vote prévu aujourd'hui à l'Assemblée. Christophe Castaner va devoir rendre des comptes après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, qui a fait 4 morts jeudi. Le ministre de l'Intérieur va être auditionné demain à huis clos par la délégation parlementaire au renseignement. Il passera aussi sur le grill de la commission des lois du Sénat jeudi dès 9h. Il a admis, Christophe Castaner, des failles évidentes dans cette affaire. Le tueur Michael Harpon était radicalisé mais rien ne l'indiquait sur le papier. Les profs du lycée Paul Robert des Lilas ne vont pas donner cours aujourd'hui.
Ils veulent montrer leur inquiétude après la mort d'un adolescent de 15 ans devant cet établissement de Seine-Saint-Denis vendredi. C'était au milieu d'une bagarre sur fond de rivalité locale.
Et les enseignants réclament plus de moyens humains pour lutter contre ces violences. Nordal Lelandais doit être jugé pour assassinat et pas pour meurtre. La demande dans le Parisien de ce matin du père de la petite Maëlys, disparue il y a 2 ans. Il est persuadé que l'ex-militaire l'a tué avec préméditation, ce qui veut dire une peine maximale plus lourde. Le procès est prévu l'année prochaine. France Bleu, il est 13h03. La population endeuillée de Villiers-le-Bel se rassemble dans 4h, après la mort hier d'un jeune homme dans cette commune du Val-d'Oise.
Oui, pendant qu'il contrôlait un automobiliste, des policiers l'ont vu arriver. Arrivé à moto, ils lui ont demandé de ralentir. Il n'a pas écouté et a fini par percuter un poteau métallique. La victime, originaire de Sarcelles, avait 22 ans.
Et on écoute le maire de Villiers-le-Bel, Jean-Louis Marsac.
J'étais sur les lieux du drame, là, donc il y avait effectivement beaucoup de monde hier soir. Je sais qu'il y a le groupement de jeunes, mais plutôt pour discuter. Voilà, pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus à l'heure où je vous parle. Mon ressenti, c'est évidemment la consternation et puis de l'émotion, quelles que soient les circonstances de cet accident. C'est un jeune qui perd la vie, quoi. Donc voilà, c'est inadmissible, c'est horrible, ça n'a pas de mots. Donc voilà, ma première réaction, c'est plutôt celle-là. Évidemment, je pense à la famille Sarcelles qui est endeuillée ce matin.
Une enquête a été confiée à la Sûreté départementale. D'après les premiers éléments, la moto avait été signalée volée. 24 ans plus tard, la justice va se pencher sur le financement de la campagne d'Édouard Balladur. Le procès de l'affaire Karachi ouvre à Paris dans une demi-heure. Sur le banc des prévenus, 6 personnes soupçonnées de commission occulte en marge de cette campagne présidentielle de 84. 1995. Le procès va durer tout le mois. On parle beaucoup des pesticides dans les champs, dehors, loin de la maison, du glyphosate et autres. Mais une nouvelle étude de l'ANSES nous met le nez dans nos placards, Denis.
Les trois quarts des Français utilisent des pesticides à la maison et parfois sans le savoir, pour protéger les plantes, nettoyer de la mousse sur un rebord de fenêtre ou un balcon, ou pour traiter les puces du chien ou du chat.
Eh oui.
C'est l'occasion de faire un tour du propriétaire avec le porte-parole de Génération Future, l'association très engagée contre l'utilisation des pesticides.
Au Japon, les organisateurs du mondial de rugby scrutent le ciel. Un avis météo a été lancé ce matin à l'approche d'un typhon par le sud-ouest. Deux matchs sont menacés, Irlande-Samoa samedi et Pays de Galles-Uruguay dimanche.
Et a priori, pas de problème pour notre choc à nous, France-Angleterre, samedi à 10h15, ça se passe dans l'est de l'archipel.
Oui, on espère qu'il va avoir lieu et on espère qu'évidemment, il va bien se terminer pour nos bleus. On connaît les lauréats du prix Nobel de médecine, deux chercheurs américains et un britannique récompensés à 11h30 pour, accrochez-vous, l'adaptation des cellules au niveau variable d'oxygène dans le corps.
Bah, c'est tout simple.
Voilà, en gros, c'est des travaux qui vont aider à traiter certains cancers ou encore l'anémie. La météo de votre lundi 7 octobre, début de semaine pluvieux à l'ouest, de la Bretagne à la Vendée. Soleil voilé dans le centre du pays et plus présent à l'est, surtout sur le flanc sud, avec quand même un Mistral et Tramontane qui vont souffler, bien souffler, jusqu'à 80 km/h.
13 degrés à Besançon-Viotte. Si je vous donne la température à la gare, c'est parce qu'elle fait partie des 37 qui participent cette semaine à l'opération chef de gare qui va nous occuper tout à l'heure. 14 à Nantes, 15 à Strasbourg, 18 à Paris et à Tarbes, 22 à Nice, 24 à Toulon. Merci Simon de Fauconpré.
Merci à vous Denis.
Écoutez ce qui suit, on va étudier nos intérieurs d'appart et de maison.
francebleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Marine Chailloux.
Et la situation se débloque dans le secteur de Rosny-sous-Bois. Il y avait un poids lourd en panne sur la 86 intérieure. Il a été enlevé. Il reste quand même un petit peu de monde en amont, notamment sur la 3, juste avant la jonction avec la 86. Comptez un bon quart d'heure de Roissy jusqu'à Rosny. Sinon, un autre poids lourd est toujours à l'arrêt sur la N118 vers Paris. Il est arrêté à hauteur de Meudon. Et puis une voiture en panne sur la 1 direction du Nord. En sortant de la porte de la chapelle à Saint-Denis, la voie de droite est neutralisée. Dans les transports en commun, le trafic revient à la normale sur la ligne P entre Crécy-la-Chapelle et Esbly.
Les pesticides sont aussi à la maison et nous, nous sommes avec le porte-parole de Génération Future. Bonjour François Veyrette.
Bonjour.
L'étude de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, qui indique que les trois quarts des Français utilisent des pesticides est étonnante. On est de plus en plus sensibilisés, mais on continue à acheter des produits toxiques.
Oui, alors tout à fait. Nous, on est ravis que cette étude paraisse. J'ai envie de dire qu'elle paraisse enfin, parce que on l'attend depuis 2015. Elle était faite sur des données 2014-2015, donc ça a été un peu long. Mais effectivement, elle nous dit de manière complètement objective que ben, chez les trois quarts des Françaises et des Français, dans les placards, comme vous dites, on a des pesticides qui sont, pour certains, dangereux. On avait attiré, nous, en tant qu'association, en 2013, l'attention des autorités sur le fait qu'on avait effectivement beaucoup d'insecticides, et notamment d'insecticides perturbateurs endocriniens dans les rayons des supermarchés. Donc là, maintenant, le diagnostic est fait et il ne reste plus qu'à agir.
La dangerosité des produits est souvent, très souvent même notée, sauf qu'on ne lit pas forcément les étiquettes. Alors, on utilise des pesticides pour le soin des plantes, contre les insectes, de la mousse sur la terrasse ou contre les puces des animaux. Il y a des risques évidents pour la santé avec des produits. Est-ce qu'il y a des produits plus dangereux que d'autres qu'il faut absolument éviter ?
Bah, disons que le rapport de l'ANSES le montre, la source principale d'exposition à ces pesticides ménagers sont les insecticides. Alors, effectivement, les insecticides, on peut s'en passer dans bien des cas, mais si on ne le fait pas, surtout ce sont des jeunes enfants ou des femmes enceintes qui sont exposées à l'intérieur, l'exposition, elle va être importante. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout logique. Hein. Vous savez qu'en agriculture, on a un plan de réduction de l'usage des pesticides en France. On a interdit les pesticides pour les jardiniers, les pesticides de synthèse. Donc il faudrait rapidement pouvoir mettre en place une politique de réduction forte des pesticides dans les maisons également.
Il y a vraiment des alternatives efficaces. Quelqu'un me disait ce matin, qu'est-ce que je fais avec les cafards que j'ai à la maison ?
Alors, les cafards, effectivement, une espèce de produit particulier. Alors, pour ce type d'insectes à l'intérieur, il y a moyen d'éviter l'exposition. Hein. C'est la même chose pour les fourmis, avec des produits dans lesquels la matière active est complètement pas en contact avec l'utilisateur. Et en fait, ce sont des petits pièges dans lesquels les insectes passent et ils se contaminent. Et donc, il n'y a pas de contamination de l'utilisateur. Ça peut faire partie des solutions. Et puis, pour les moustiques, par exemple, eh bien, il faut d'abord essayer de supprimer les gîtes larvaires autour de chez soi. Pas de soucoupe avec de l'eau qui traîne ou de petites flaques autour de la maison pour éviter de fournir un hôtel, un restaurant aux moustiques. Des moustiquaires aux fenêtres, ça se fait bien, c'est un investissement. Une fois qu'on l'a, c'est pour la vie, ça évite que les moustiques rentrent. Ça permet de se passer, dans la majorité des cas, de moustiques, de produits anti-moustiques.
Un mot peut-être sur les produits vétérinaires, parce qu'on traite son chien ou son chat, et puis le chien ou le chat, il va sur le canapé, voire sur le dessus de lit ensuite.
Oui, tout à fait. Et puis, on caresse les chiens et les chats. Et donc, il y a des études qui montrent clairement que les enfants, après ça, qu'ils vont être exposés. On a fait des analyses de cheveux qui le montrent. Et donc, si on veut ne pas s'exposer à ces produits, on pense au fipronil, qui est interdit en agriculture et qui est utilisé très largement en produits vétérinaires. Et après ça, toute la maisonnette y expose. Eh bien, il faut essayer de trouver d'autres façons de gérer les choses. Il y a d'autres façons, en médecine vétérinaire, d'éviter que les chiens et les chats soient contaminés par des puces, que de déverser des produits toxiques sur leur fourrure.
En tout cas, à vous entendre, François Veillerette, il est bon de mettre sur la table le problème des pesticides à la maison, au même titre que les pesticides dans les champs.
Tout à fait, c'est une question de cohérence politique. Et au moment où les agriculteurs, justement, ont du mal à avaler un petit peu, je dirais, les mesures qui viennent restreindre leur capacité à utiliser des pesticides en agriculture, il est bon d'avoir une action cohérente qui restreigne aussi l'utilisation dans les jardins. Ça s'est déjà fait avec la loi Labbé, du nom du sénateur éponyme. Et puis, donc, il n'y a pas de raison de ne pas agir également sur les insecticides qu'on a dans nos placards et autres pesticides utilisés de manière domestique. Il faut une action en termes de santé publique qui soit complètement cohérente.
François Veillerette, porte-parole de Génération Future. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Voilà le programme d'une heure en France jusqu'à 14h.
Une heure en France, Denis Farroux, Frédéric Le Tournier.
Et aujourd'hui, on va prendre notre plus belle plume pour la semaine de l'écriture et un concours de cartes postales. Nous allons observer en quoi il est embêtant pour les enfants de ne plus écrire manuscritement.
Alors, on n'ira peut-être pas jusqu'à faire des pleins et des déliés.
Pourquoi pas?
Ah, vous savez ce que c'est alors?
Ah oui, on le sait, oui.
Mais on va écrire.
Ensuite, on déjeune en gare avec l'opération Chef de Gare qui propose dans 37 gares de France cette semaine de la cuisine de grands chefs avec des produits régionaux à l'honneur.
C'est la semaine du goût. On commence en gare avec un petit encas aux petits oignons avant de prendre le train.
Et on termine avec un retour sur une déambulation artistique avec un âne au lilas en région parisienne. C'était samedi lors de la Nuit Blanche des musées.
Un âne en ville. Déambulation artistique, vous dites.
Exactement. On va demander ce que c'est précisément.
On est curieux de nature.
Une heure en France ensemble. Bon lundi à tous. C'est jusqu'à 14h et c'est tout de suite another break in the wall.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
vous avez reconnu Another Break in the Wall sur France Bleu à 13h17. Oui, d'accord, ils ont encore des petites choses à dire, mais de toute façon, on comprend rien.
Une heure en France. Denis Farrow, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Allez, cette semaine, on range les portables, les ordis, comme les téléphones. On prend une belle feuille de papier et on écrit comme avant. C'est la semaine de l'écriture à l'école et dans les mairies aussi. Une manifestation pour redonner le goût de l'écriture avec un concours à la clé.
Vous avez remarqué, Frédéric, la difficulté que l'on peut avoir à écrire lisiblement, tout simplement, parce qu'on n'écrit plus. Ou beaucoup moins en tout cas. Enfin, je parle pas pour vous, vous avez une très belle écriture.
Je vous remercie, c'est vrai que j'écris beaucoup dans les petits carnets. La semaine de l'écriture est portée par l'animateur Patrice Laffont et un apprenti typographe devenu photographe et diffuseur de cartes postales. Il est avec nous. Bonjour Bernard Bouvet.
Bonjour Gwenaëlle.
Ah, c'est Frédéric, mais on embrasse Gwenaëlle.
Ah, qui... bonjour Frédéric, alors excusez-moi.
Il n'y a pas de souci, Gwenaëlle qui, je le dis, est dans l'ombre et prépare cette émission également.
Et moi, et c'est Denis. Bonjour Bernard. On perd l'habitude d'écrire avec nos claviers, c'est indéniable. Mais les enfants écrivent toujours à l'école tout de même, ça ne suffit pas à votre avis ?
C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai créé la semaine de l'écriture, c'est en présage pratiquement il y a 8 ans que c'est fait, et on s'aperçoit que maintenant les enfants ne savent plus écrire parce qu'ils écrivent de moins en moins, ils sont de plus en plus sur leur tablette. Et on a eu une alerte, nous, à l'époque, parce que on s'est aperçu que aux États-Unis, il y a quelques années, il y a une majorité d'États qui ont voulu rendre la pratique de l'écriture cursive facultative. Et ce début, dès le début du primaire, une quinzaine d'entre eux ont fait d'ailleurs machine arrière au mois de septembre l'année dernière, à la rentrée, on verra cette année. En effet, ce n'est pas la même chose pour le développement du cerveau d'écrire à la main ou de taper sur un clavier.
Qu'est-ce qu'on écrit encore aujourd'hui manuellement, les adultes comme les enfants? Est-ce qu'il reste encore de la place pour l'écriture manuelle dans la vie de tous les jours?
Il reste de la place dans la vie de tous les jours, puisque bon, moi, personnellement, je suis encore président de l'Union professionnelle de la carte postale, mais on envoie toujours des cartes postales. Tous les ans, ça diminue un petit peu, on va dire, mais de 0,6% la dernière étude de marché du mois de juin. Donc, il y a encore des cartes postales décrites. On envoie encore des...
Des lettres d'amour.
Ça ne pèse pas énormément.
Les lettres d'amour, on les écrit à la main, quand même.
Ah, les lettres d'amour, c'est quand même mieux, puis on reconnaît l'écriture.
C'est ça. Ouais,
la liste des courses aussi, Frédéric.
Aussi, vous avez raison.
C'est vrai qu'on a entendu des enfants se plaindre de douleurs, de crispations liées aux gestes de l'écriture. On savait qu'il y avait la tendinite du pouce pour ceux qui pianotent en permanence, mais on n'a parfois plus, ne serait-ce que la posture pour écrire.
Il n'y a plus du tout, justement, dans beaucoup d'écoles, il y a des articles. Enfin, cette année, si vous voulez, on s'occupe de ce qu'on a prévu. Nous, il y a déjà 8 ans, 10 ans, avec mon ami Patrice Laffont, que tout le monde connaît, je ne le présente pas. Mmh. C'est Fort Boyard, les chiffres et lettres, etc. C'est un homme qui est fondu d'écriture comme moi. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que les enfants ne savent plus tenir un crayon à l'école, et de plus en plus. Alors imaginons que tout le monde, pour l'instant, tout le monde a appris à écrire. Même si on écrit moins, on sait écrire. Mm. Mais imaginons que les générations d'enfants qui viennent n'aient pas appris à écrire. Ils ne sauront plus écrire. Imaginons les adultes qui ne savent plus écrire. Qu'avec des correcteurs d'orthographe, des ordinateurs, ben nous ne serions plus dans le même monde.
C'est vrai. Est-ce que ça a un impact aussi sur la lecture et l'orthographe, tant que vous parlez justement des générations futures ?
Alors, ça a un impact énorme, bien sûr, sur l'orthographe. Oui, parce que si on n'écrit pas, évidemment, on a du tout copier-coller, c'est pas la même chose. Mais l'état d'esprit change quand même. On voit aujourd'hui des articles dans les journaux qui disent que les enfants ne savent plus écrire. Et ça, je suis content que vous m'interrogiez à ce sujet aujourd'hui. Et c'est grave pour de nombreux... Il y a de nombreuses études qui ont été faites qui vont dans ce sens. C'est pas bon du tout pour il est démontré que la mémoire... on mémorise moins lorsqu'on n'écrit pas un cours manuel, par exemple. Demander à OK Google la réponse à toutes nos questions, c'est tout à fait autre chose que d'assimiler.
OK Google. Ouais.
L'écriture, c'est la mémorisation instantanée.
Ouais. Vous militez, Bernard Bouvet, pour l'écriture manuelle, et vous avez raison. Est-ce que vous militez pour la belle écriture ? Est-ce que vous allez jusqu'à essayer de réintroduire ce qu'on apprenait ? Frédéric secoue la tête à côté de moi. Est-ce que réintroduire les pleins et les déliés comme on a appris il y a très longtemps à l'école ?
Oui, personnellement, bon, le lundi matin, je peux raconter ma vie, j'arrive du cours de la calligraphie. Tous les 15 jours, j'ai le lundi matin un cours de calligraphie, mais les pleins, les déliés, c'est la plume. Et tout ça, c'est la belle écriture. Ce que je pense, moi, c'est que là, on parti comme c'est là, et je vous en remercie parce que on sait le point de départ pour cette année où on va faire un concours, un autre concours, on en parlera après de celui qui est en cours, mais un concours sur justement les pleins, les déliés, la belle écriture. On va faire ça au mois de mars.
Alors, voilà. Pour revenir aux cartes postales, Bernard Bouvet, du coup, le thème du concours cette année, c'est quoi? L'endroit où j'aimerais vivre, c'est ça?
Voilà l'endroit où j'aimerais vivre. Tous les ans, on change de thème. On a eu le futur, on a eu enfin plein de choses. Et là, l'endroit où j'aimerais vivre, parce que on s'aperçoit, enfin, on veut changer. Et puis, pourquoi? Ben, les enfants, on va découvrir ce que les enfants pensent de s'ils se plaisent à l'endroit dans la ville où ils sont, ou dans la campagne, dans la montagne ou à la mer. Je sais pas.
Mais nous aussi, on va se poser la question. L'endroit où on aimerait vivre. Tiens, on va y réfléchir cet après-midi. C'est la semaine de l'écriture, cofondée par Patrice Laffont et Bernard Bouvet. Écrivons, réécrivons, et pas seulement cette semaine.
Je suis vraiment d'accord avec cela. Et puis, c'est vrai que vous l'avez dit, ça aide aussi à retenir les choses, de les écrire à la main. Donc, continuez, achetez de la belle papeterie, notez. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette semaine spéciale, Bernard Bouvet.
Voilà, merci, et puis merci à vous surtout, et puis n'oublions pas aux instituteurs qui nous écoutent qu'il y a un livret pédagogique à télécharger sur notre site, un livret pédagogique de 18 pages pour qu'ils continuent à donner des cours aux enfants,
d'accord,
et à leur apprendre l'écriture en CP, CE et CM, voilà.
À 18 pages à recopier, pourquoi pas. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Et nous jouons maintenant pour un casque audio Bluetooth, le cadeau préféré de Denis Farou. Dites-nous quel est le nom de l'alphabet russe. Pas de proposition, c'est facile normalement. Vous nous appelez 0810 055 056, puis vous restez avec nous après la semaine de l'écriture. On va se régaler avec la semaine du goût et l'opération SNCF dans 37 gares de France.
Ouais, et ensuite, il y aura la semaine de l'âne.
Non. Non, j'allais faire une mauvaise blague vous concernant, donc non. Et on va parler de la déambulation de l'âne Brindy. C'était samedi, lors de la nuit blanche, ça s'est passé au Lila. Mais en attendant, on va écouter le tout dernier titre de M. Pokora, Les Planètes. M. Pokora, on est ravis de le retrouver. Ça faisait un petit moment, il nous avait manqué. C'est son tout dernier titre maintenant sur France Bleu, bon lundi.
Seul dans mon monde, 4h du mat, loin des phares, 207 chambres d'hôtel. Je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, entre mes rêves et mes doutes, au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Un shot je pense à toi, deux shots je pense à toi, trois shots je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes. Pardonne-moi l'indifférence. Je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo, laisse. Ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo, laisse. Ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Une nuit de plus, solitude dans le tourbus. Aucune muse ne m'amuse. Je t'appelle mais tu décroches pas. Un shot je pense à toi. Deux shots je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence. Je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo, laisse. Ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo, laisse. Ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie?
ta peau contre ma peau. Laisse ta peau contre ma peau. Laisse-moi donner le tempo. Laisse ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau. Laisse ta peau contre ma peau. Laisse-moi donner le tempo. Laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie?
Les planètes, c'était M. Pokora. Allez voir le clip, il est assez futuriste.
Les planètes sont alignées.
Ah oui, c'est vrai. En ce moment, pour lui, en tout cas, les planètes sont alignées. Nadège nous a téléphoné. Bonjour Nadège.
Bonjour Frédéric, bonjour Denis.
Bonjour Nadège.
Vous êtes dans la Sarthe, Nadège.
Oui, exactement.
Ah, on y va demain.
C'est vrai, pour parler c'est d'un gâteau de rillettes.
Vous connaissez les mariettes?
Eh ben, je ne les connais pas, je ne les ai pas goûtées, mais j'en ai entendu parler.
Ah, écoutez demain.
Justement, sur France Bleu Maine.
Eh ben voilà, voyez Nadège. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau en ce lundi? C'est jamais très agréable le lundi.
Eh ben, je travaille.
Ah, vous faites quoi dans la vie?
Je suis secrétaire.
D'accord, mais là, vous êtes en pause déjeuner.
J'ai repris.
On dirait pas.
J'adore parce qu'on sent à votre voix le petit côté je regarde à droite à gauche. Est-ce que j'ai le droit de téléphoner à France Bleu?
J'ai une caméra dans mon bureau.
Non, non, je crois pas. On vous voit pas en tout cas, Nadège. Nadège, quel est le nom de l'alphabet russe?
Cyrillique.
Oui, le cyrillique. Comment vous savez ça comme ça? Vous l'avez appris?
Je l'ai appris.
D'accord. Vous aimez écrire à la main, vous, Nadège?
Oui.
C'est vrai, vous écrivez encore des lettres à la main?
Je suis encore d'une génération où on écrit.
Bon, je vous demande pas votre âge, ça se fait pas, mais je peux vous dire que moi aussi, j'aime beaucoup écrire à la main, donc faut continuer, c'est important pour les enfants, vraiment.
Oui, tout à fait.
Nadège, le casque audio Bluetooth, il est gagné, il est pour vous.
Super, c'est génial.
On vous laisse bosser.
Ouais, j'y retourne.
Il y a un chef juste derrière vous.
Méfiez-vous. On vous embrasse bien fort, Nadège.
Merci beaucoup.
Bon courage, à bientôt.
Bonne journée, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. France Bleu.
Bonjour, je suis Simone Rabanne, la voyante qui va finir en cabane. Et je vois dans ma boule de cristal que vous allez bientôt entendre un nouveau sketch des Chevaliers du Fiel.
Ce sera uniquement sur France.
Les Chevaliers du Fiel à la radio, c'est uniquement sur France Bleu et francebleu.fr.
Vous êtes soucieux de mieux manger, plus sain, plus gourmand, plus varié? France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien. Les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Valcivière dans le Puy-de-Dôme avec un producteur de fourme d'Auvergne. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu. France Bleu vous fait aimer le cinéma.
Tonio !
En Sicile, Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, a été enlevé.
Qui te dit que Tonio n'est pas chez les hommes?
Avec son armée et un magicien, Léonce part à sa recherche.
Mais qu'est-ce qu'on attend? Avec moi, le clan!
Partez pour une grande aventure pour les petits et les grands.
J'ai conquis la Sicile pour te retrouver.
La fameuse invasion des ours en Sicile, d'après le chef-d'œuvre de Dino Buzzati, le 9 octobre au cinéma. Toutes les infos sur francebleu.fr.
francebleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Marine Chaillou.
Avec un accident sur l'A6 vers Paris, une voiture et un poids lourd sont impliqués, c'est juste avant Orly. Sinon, il y a trois pannes à vous signaler. Un poids lourd à l'arrêt sur la N118 vers Paris à hauteur de Meudon. Toujours au sud de Paris, un autre poids lourd est en panne sur la francilienne extérieure, c'est à Saint-Michel-sur-Orge. La voie de droite est neutralisée et puis une voiture est arrêtée également sur l'autoroute 1 à Saint-Denis. Juste en sortant de la porte de la chapelle, la voiture est sur la voie de droite. Dans les transports en commun, sur la ligne J du Transilien, le trafic est ralenti entre Saint-Lazare, Gisors, Hermont et Mantes-la-Jolie.
Petite fin non, à cette heure-ci, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis?
Une petite opération chef de gare, ça vous tente?
Ah oui, on va aller en gare pour mieux manger. C'est surprenant, mais ça va être le cas toute la semaine avec l'opération chef de gare partout en France avec des spécialités régionales. We'll be right back. Jones, qui a beaucoup écrit pour d'autres, mais pour lui également, notamment ce titre I Know Corrida sur France Bleu.
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farroux sur France Bleu.
Si vous prenez le train cette semaine, il est possible que vous dégustiez en gare une spécialité du terroir préparée par des chefs de cuisine. C'est l'opération chef de gare.
Et comme nous sommes tous en quelque sorte des chefs en herbe, nous sommes invités à participer à une compétition, le concours de cuisine chef de gare. Il faut juste faire attention à ne pas rater son train.
Voici un tour de France de chef de gare avec cette 7e édition SNCF Gare et Connexion et le créateur de l'opération. Bonjour Thomas Havas.
Bonjour.
37 gares participent à chef de gare avec donc, on imagine, des spécialités différentes selon que l'on est à Lille-Flandre, Avignon-TGV, Toulouse-Matabiau ou Besançon-Viotte.
Exactement. Par exemple, aujourd'hui à Rennes, le chef Benjamin Lecouette, qui a ouvert cet été le Paris-Brest, qui est un buffet de gare. Mmh. Benjamin, qui a été formé par Christian Lefker, chef aux 3 étoiles à Paris, au restaurant Le 5, proposait un carpaccio de mulet de pleine mer, relevé d'un jus de yuzu et de soja. Ensuite, une poitrine de cochon confit caramélisé étuvé de choux. Et pour finir, puisque ça s'appelle le Paris-Brest, eh bien un Paris-Brest concocté par ses soins.
Le but, c'est quoi? C'est de montrer qu'on peut mieux manger lorsqu'on va prendre le train, parce qu'on est toujours un petit peu speed, donc on prend le sandwich traditionnel. C'est de voir qu'en prenant le temps, on peut mieux manger en gare?
Exactement. C'est-à-dire recréer ce qui existait il y a quelques années, c'est-à-dire les buffets de gare où on pouvait, avant de prendre son train, ou même en habitant pas très loin, se dire « tiens, je vais passer un bon moment en gare dans un restaurant de qualité ». Donc du coup, en fait, c'est élargir l'offre, le type d'offre, avec une montée en qualité de ce qui est proposé.
Alors, où est-ce que l'on cuisine sur un quai, dans la salle des pas perdus? Où est-ce que l'on mange? Parce que le carpaccio de mulet, je ne l'imagine pas au bout des doigts, là, comme ça.
Alors là, pour l'occasion, pour cette opération, c'est vraiment en plein cœur de gare. L'idée étant que le chef, effectivement, propose ses plats signature et les fait déguster ensuite par les voyageurs, les visiteurs de la gare en question.
Et les chefs, ils ont joué le jeu tout de suite? Ça leur plaît comme idée?
Ah, ils ont tout de suite adhéré au projet. C'est vrai que c'est quand même insolite, c'est assez original de cuisiner en plein cœur de gare. Et parlons des 5 chefs ambassadeurs, nos 5 chefs qui ont des restaurants aujourd'hui en gare. Éric Fréchon, donc au Lazare, à Paris-Saint-Lazare. Thierry Marx à la gare du Nord. Michel Roth à Metz avec les terroirs de Lorraine. Michel Rostand au Train Bleu avec Paris-Gare de Lyon. Ou Christian Lefker, plus récemment, comme je le disais, à Rennes. Ces 5 chefs qui étaient présents vendredi pour le lancement de l'opération sont chaque année ravis de pouvoir venir cuisiner en plein cœur de gare et d'aller donc du coup au contact en fait des voyageurs.
Alors c'est vrai que le plus souvent, c'est un sandwich que l'on mange en gare, mais il se trouve que cette semaine il y aura aussi des sandwichs, sauf qu'ils seront estampillés chef de gare.
Oui, c'est vrai. Tous les restaurateurs qui proposent soit de la restauration assise, soit de la vente à emporter, jouent le jeu et mettent en avant un menu ou un sandwich, effectivement, puisque on propose une offre qui, comme vous le savez, est étendue, qui va de l'offre de buffet de gare jusqu'au sandwich. Il en faut pour tous les goûts.
Thomas Havas, on insiste aussi sur les produits régionaux. Pourquoi? Déjà parce qu'on veut mieux manger, pour tout ce qui est circuit court, et aussi parce que c'est ce qui fait la richesse de notre patrimoine, la variété de ce qu'on peut manger d'une région à l'autre.
Exactement. Les gares sont en fait des portes d'entrée sur les territoires et sur les terroirs. Donc c'est finalement une caisse de résonance qui met en avant tous ces savoir-faire et on est là pour accompagner ce mouvement en mettant effectivement en proposant aux artisans locaux de venir faire découvrir leurs produits, d'aller à la rencontre des visiteurs.
Vous nous avez donné l'exemple du carpaccio de mulet et de la poitrine de cochon à Rennes. Vous avez un autre exemple comme ça ailleurs en France?
Bien sûr. Alors aujourd'hui, par exemple, Julien Bintz à Strasbourg propose une tarte flambée revisitée en entrée, un pigeonneau d'Alsace fumé, maïs en texture, purée pané cassis, jus aux épices. Par exemple, là, c'est à Strasbourg. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? Par exemple, mercredi à Dijon, Mourad Hadouche, qui est le chef du restaurant L'Oiseau des Vignes au cœur de Beaune, va proposer des escargots de Bourgogne, des prés de Fontaine, du paleron de bœuf à la cuillère, avec la fameuse moutarde douce Edmond Fallot, de la région. Voilà, ce ne sont que des exemples. L'idée, c'est que chaque chef propose effectivement des produits de saison, des produits du terroir local, et voilà, les transcende pour je dirais, satisfaire les papilles des visiteurs.
Alors, je vous prie d'arrêter, Thomas Vasse, parce que nous, après, on va à la cantine.
On mange très bien dans certaines cantines.
Ça dépend des cantines, mais on va pas insister là-dessus. J'ai juste une dernière question. Est-ce que c'est beaucoup plus cher quand même? Parce que c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il va falloir faire sortir quand même le portefeuille pour mieux manger, bien manger en gare?
Alors, en fait, ce sont des buffets avec des cartes signées par des chefs, mais il y a une attention portée effectivement sur le prix qu'il reste accessible.
Oui.
Alors, c'est un petit peu plus cher forcément que si vous prenez un sandwich, bien évidemment. Mais on s'est efforcé avec les chefs à ce que ce soit de la bistronomie, non pas de la haute gastronomie, la bistronomie de qualité, et penser aussi pour que ça aille vite pour ceux qui souhaiteraient effectivement se restaurer rapidement avant de prendre leur train.
37 gares de A comme Amiens, à V comme Versailles, en passant par Avignon, Besançon, Lille, Toulouse, Grenoble, Nice, Nîmes, Annecy. Je m'arrête là parce qu'il y en a 37. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bonne continuation? Tout s'est bien passé?
Bon appétit peut-être aussi.
Ouais, je prends tout. ça démarre cette semaine. Hein, donc j'invite effectivement ceux qui souhaitent découvrir l'opération à se renseigner en allant sur le site internet de Gare et Connexion pour voir quelles sont les gares qui proposent cette opération.
Ça donne envie de prendre le train. Merci beaucoup Thomas Vasse, on vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
Merci à vous, bonne journée. Au revoir.
Et nous jouons pour une montre France Bleu Sport à cette heure-ci. Dites-nous quel nom porte la gare de Bordeaux. Parce que Denis nous a cité beaucoup de noms de gare tout à
pas
l'heure,
celle-là.
Mais pas Bordeaux. Donc je vous pose la question, le nom complet de la gare de Bordeaux, la gare de centre-ville. Vous nous appelez au 0810 055 056 et même si vous êtes bordelais, vous avez droit de jouer. Francis Cabrel tout de suite, parce qu'il faut qu'on se remette, on a bien bien faim. Petite Marie sur France Bleu à 13h42 et après on fait une déambulation artistique avec l'âne brindille au Lila en région parisienne.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile, dont toi le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour.
Francis Cabrel, vous l'avez reconnu, nul besoin de le présenter, c'était Petite Marie. Jean-Pierre, bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour à tous les deux.
Vous êtes en Dordogne, Jean-Pierre.
Oui, c'est ça.
Où ça, en Dordogne?
À Dordogne.
Ah bah parfait, plus besoin de vous le demander. Jean-Pierre, on joue pour une montre France Bleu Sport, pas de souci pour vous, quel nom porte la gare de Bordeaux?
Bordeaux-Saint-Jean.
Mais oui, vous prenez souvent le train, vous, Jean-Pierre?
Oh là, il y a un moment que je ne l'ai pas pris, effectivement, mais ça m'arrive de temps en temps, oui.
Et vous aviez des souvenirs de buffets de gare, de brasserie?
Pour être honnête, non.
Non, vous
moi,
pique-niquez.
C'était plutôt, en général, à l'heure où je passais, plutôt le sandwich. Mais enfin bon.
Et ben oui.
Écouté, ça doit être appétissant tout ce qu'ils proposent.
Ben oui, nous, ça nous a donné très faim. Et puis c'est vrai que c'est bien pour découvrir aussi les régions. Il y a des gares, parfois, on fait juste y passer. Et ben du coup, ça nous donne envie de revenir découvrir la ville une autre fois. Jean-Pierre, on vous envoie la montre France Bleu Sport. On vous souhaite quoi pour la semaine?
Ben écoutez, que le festival médiéval que j'organise à la fin de la semaine à Saint-Pierre-de-Col ait beaucoup de succès.
Festival médiéval, c'est ça, on a bien compris?
Oui, oui, médiéval, j'ai bien dit, effectivement, j'organise depuis 12 ans maintenant un festival du médiéval avec chaque fois un thème différent. Et cette année, c'est la céramique au Moyen-Âge qui va être traitée. Et on aura un très beau concert samedi soir avec un ensemble médiéval qui s'appelle Tréfontaine.
Ah bah alors on vous souhaite plein de monde, une belle réussite à votre festival et on vous fait une grosse bise, Jean-Pierre.
Ben moi aussi, puis merci à France Bleu et à très bientôt.
De rien, merci Jean-Pierre. Tout de suite, c'est Clara Luciani avec son dernier titre, on l'adore ici, ça s'appelle Nu.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui... Vraiment moi qui chantais. Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh, oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh, oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. En pleureuse italienne, en héroïne ou en blessé de guerre, cette vie que j'habite parfois me dépasse, parfois est trop petite. Peur que ma chance me quitte, je cours partout, je m'ennuie vite. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux. Je viens nu vers toi.
Exceptionnel. Clara Luciani, c'est son dernier titre, ça s'appelle Nuit, et bien sûr, c'est sur France Bleu.
Une heure en France, Denis Farrow, Frédéric Le Ternier sur France Bleu.
Samedi, c'était la nuit blanche à Paris et en banlieue parisienne. Il y avait de nombreuses manifestations artistiques organisées. Alors nous avons choisi de revenir sur celle qui s'est déroulée au Lila, en Seine-Saint-Denis.
Une déambulation à travers la ville avec une charrette et l'âne brindille était proposée. Je crois bien que c'est une ânesse.
On va vérifier. Organisée par l'association Calenco, nous sommes ce midi avec l'un des membres qui nous fait bénéficier d'une session de rattrapage. Bonjour Jean-Claude Wetzel.
Bonjour.
Alors, c'est bonjour. Votre association, c'est une association qui a pour but de rapprocher les artistes.
De rapprocher les artistes, d'avoir des projets en commun,
oui,
et de se rapprocher de la population parce qu'avec une masse critique d'artistes, on peut monter des projets.
D'accord. Et vous proposiez samedi une déambulation allégorique avec un âne. Il faut nous expliquer ce que ça veut dire.
Eh bien, alors, pour proposer quelque chose à la population des Lilas, on a imaginé de déambuler dans la ville, donc d'avoir une déambulation lumineuse des artistes pour bien être vus, à la recherche d'un lieu pour exposer. Et on a dressé l'idée de la charrette sicilienne, c'est une vieille tradition italienne où on se montre, où on montre une belle charrette. On avait un anneau lila, on l'a associé, et là-dessus, eh bien, on a fait le fil en aiguille. On a associé d'autres associations, des associations de poètes, et puis les enfants des écoles, parce qu'avec l'âne, c'était vraiment la bonne idée d'associer les petits des écoles primaires qui nous ont fait des dessins pour cette occasion, qu'on a exposé donc dans un lieu public qui est le parc Lucie Aubrac. Et on a encore eu d'autres partenaires. On a eu le char nous a été prêté par la parade Métèque. On a eu une soupe offerte gratuitement le soir qui a été fabriquée par une association qui s'appelle Passemploi.
Est-ce que l'ânesse Brindille a apprécié la balade?
Oui.
Alors, elle a l'habitude de se promener en ville puisqu'elle habite au Lila. Et alors, évidemment, elle est très attirée par tout ce qui ressemble à des fleurs, de la verdure, des touffes d'herbe. Et donc, il fallait pas porter de robe avec des fleurs ce jour-là. Mais ça s'est très bien passé.
Alors, vous l'avez dit rapidement, Jean-Claude Wetzel, la charrette vient d'une tradition sicilienne, c'est-à-dire?
Eh bien, alors, je peux pas vous citer exactement la période, mais les gens riches qui avaient un âne pour tirer leur charrette, pour déplacer des objets ou pour revenir de la moisson, décoraient leur charrette pour montrer qu'ils avaient, qu'ils étaient riches, qu'ils savaient faire des belles choses.
Et un âne qui se balade à Pantin, la nuit,
au Lila,
oui. Quelle était la réaction du public, plutôt curieux, amusé?
Ah là, c'était formidable. D'abord, beaucoup de gens connaissaient l'existence de cette ânesse au Lila. Et alors, ça a été l'occasion, effectivement, d'attirer en particulier les familles. Hein. Ça, c'est sûr que l'âne a eu un gros succès.
Les enfants sont particulièrement sensibles à ça. Du coup, ça les sensibilise à l'art également.
À l'art au passage, bien sûr, puisqu'on a eu des petites expositions flash, donc mises en scène par les artistes de Calico, et puis eux-mêmes, on les a sollicités pour dessiner, et donc c'est une grande exposition des dessins des enfants.
L'art et l'âne au Lila.
C'est joli, c'était organisé par Calenco. Oui. Merci beaucoup d'être venu avec nous et pour nous sur cette balade, Jean-Claude Wetzel, et on souhaite le meilleur à votre association pour l'avenir au Lila.
Oui, merci beaucoup. Voilà, est-ce que je peux dire un dernier petit mot? C'est que pour rapprocher l'art de la population, nous organisons une artothèque où chacun peut venir rencontrer les artistes et emporter chez soi une œuvre d'art pour un prix modique.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup. Belle journée à vous. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Chris Isaac a choisi la bonne couleur lui aussi. Blue Hotel, son hôtel est bleu.
On a lonely highway,
Chris Isaac, bien sûr, vous avez reconnu sa voix. C'était Blue Hotel sur France Bleu. Une heure en France, c'est terminé, Denis. On a fait quoi encore aujourd'hui, lundi?
On a dégusté un pigeonneau d'Alsace à Strasbourg, des escargots de Bourgogne à Dijon, un carpaccio de mulet à Rennes, la bistronomie dans 37 gares de France et l'opération Chef de Gare.
Ça vous a plu? Vous avez retenu surtout le menu. On a parlé d'un concours d'écriture dans le cadre de la semaine de l'écriture, mais l'écriture manuscrite, hein, qu'on comprenne bien.
Je t'écris sur papier d'Arménie. Vous connaissez la chanson d'Isabelle Maïro? Je vous la chanterai un jour.
Avec grand plaisir.
Il faut écrire, réapprendre à écrire et faire des pleins et des déliés.
Alors les pleins et des déliés, parce qu'on n'a pas eu le temps tout à l'heure, c'est quoi? C'est l'écriture attachée tout simplement en fait?
Comment?
C'est l'écriture attachée tout simplement, les pleins et les
non,
déliés.
Ah non, on appuie en redescendant et on relâche en remontant.
Ah,
il me semblait que vous ne connaissiez pas. On va reparler de la technique des pleins et des déliés.
On va en parler. Donc on va voyager en France, ça vous l'avez dit, avec différents menus dans différentes gares et des spécialités régionales. Pour retrouver la tradition des buffets de gare, un petit peu comme le train bleu Gare de Lyon, il y en a bien d'autres.
La bistronomie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Et puis on a terminé avec une déambulation allégorique de l'âne brindille. ça s'est passé au Lila samedi dernier.
Il y a l'art et la manière, là c'était l'art et l'âne au Lila, à Paris.
On revient demain, Denis, si tout va bien,
c'est
à partir de
13h. C'est demain, la découverte d'une mâchoire de rhinocéros sous le métro de Toulouse.
J'ai hâte, et puis il y a des carapaces de tortues aussi.
Depuis le temps qu'on l'attend.
Ah ben non, je t'ai plus, on en parle demain dans une heure
À demain.
France.